Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience de Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5 euros par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist en plus des épisodes en avance sans publicité. Lien en description de l'épisode.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
Alors, le courrier de Randros, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film dont on a traité, le podcast et pourquoi pas d'autres choses. On va commencer avec l'avis des auditeurs. On avait parlé d'un espèce de vague de gens qui ont aimé et qui ne comprenaient pas pourquoi c'est un traquenard, pourquoi on chiait sur le film, pourquoi il serait dans le shitlist. Voilà, donc pas mal de questions qui ont été posées sur Twitter. Alors, je vais commencer vite sur Blue Sky avec Solidius qui dit « C'est un film qui a une bonne forme. Le côté buddy movie fonctionne en particulier grâce aux acteurs. En revanche, le fond semble totalement déconnecté de la réalité en matière de traitement du racisme. Mention spéciale à la scène où Viggo Mortensen dit cache, je suis plus noir que vous. » Effectivement, on en avait parlé de ça. La saga qui lui dit moi aussi j'ai un ami noir, voilà. C'est ça en fait, c'est vraiment ce film là en fait, un petit peu dans l'idée, tu vois. Luc Nagasaki m'a fait rire, il m'a dit mais vous avez pas déjà parlé de ce film? Bah en fait, c'est tellement je crois qu'on avait foutu des scuds comme ça de droite
oui,
à gauche.
Oui, je pense qu'on avait dû tailler le film mais on n'a pas fait d'épisode dessus, ouais.
Non. Et là, effectivement, c'est. Bah, là, c'est la dernière fois qu'on en parle.
Ah, bah là, c'est terminé. Hein.
On l'a fait, c'est bon.
C'est bon, hein.
Je t'en fais plein le cul. C'est bon, faites chier. Thionef nous dit c'est une sorte d'intouchable version ricaine avec un prolo raciste qui devient moins raciste à la fin du film et un bourgeois maniéré qui commence à kiffer des trucs de prolo. Le tout agrémenté de dialogues artificiels et de plans fixes ennuyants. Il n'y a pas mieux résumé.
Bah, non, je pense qu'il a raison. Il a raison.
Alors, entre deux cannes. Alors là, il fait son edgy. Attention, parce que là, il faut rester assis.
Et qu'il y reste,
faut serrer les fesses.
Cannes, hein, si tu veux, mon avis.
Voilà, voilà qu'il y reste. Mais aimer Green Book est chose facile, tant ce film coule comme une source d'eau claire. Aimer plutôt que de succomber à cette détestation de tout et de tous, parfois très en vogue, comme actuellement, est totalement destructrice d'humanité. Un film positif.
Un humaniste, ouais, il nous en fallait un.
Ouais, j'avais l'impression d'être dans Masquer la plume, tu vois, quand je fais putain, bienvenue France Inter, quoi. Alors, la semaine, elle va dans ce sens-là, parce qu'on s'est dit, effectivement, de revenir un peu sur les traquenards à Oscar. Vraiment, notre truc où on se disait, putain, les enfoirés. Alors, il y en a qui sont connus, en fait. Il y en a qui sont vraiment... on s'est dit, vraiment, c'est... Tu vois, on va juste aller vite fait, mais... On avait parlé de Miss Daisy, son chauffeur. On avait parlé de Shakespeare in Love. Ça, c'est sûr, tu vois, qui avait chopé le meilleur film et puis plein de statuettes, mais il avait chopé le meilleur film face à Il faut sauver le soldat Ryan. Tu vois, Miss Daisy, son chauffeur, c'est face à Né un 4 juillet. Et je crois qu'aussi, il y avait Mississippi of Morning dans le délire de Alan Parker.
Ah oui.
non, mais tu vois, c'est assez ouf. Et il y avait aussi Collision Crash de Paul Haggis.
Oui, le fameux.
En 2006, le meilleur film.
Le fameux, ouais.
Qui était vraiment nul à chier. Et, alors, il y a plusieurs. Je vais t'en laisser. Enfin, je te laisse celui que tu avais choisi. Moi, j'en ai plusieurs aussi.
Moi aussi, j'en ai plusieurs.
Je me dis, putain, c'est abusé. Alors, vas-y, Marvin, quel était pour toi le pire traquenard?
Je me rappelle de Spotlight. Je sais pas si vous vous rappelez de Spotlight.
Si, si.
Aïe. Je sais plus contre quoi. Et il gagne contre un gros truc en plus, Spotlight, je crois. Cette année-là, je sais plus ce qu'il y a.
Spotlight, c'est 2015.
Il y a une injustice là dans l'histoire. Là. Je me rappelle que c'est pour ça que je l'avais spoté, à mon avis. Mais bon, après, une injustice, j'en sais rien, parce que ces cérémonies-là, de toute façon, j'en ai rien à foutre en général, hein, clairement. Ça me fait juste rire de voir le palmarès qui est en général déconnecté de ce que les gens.
Ah oui, il a eu le meilleur film en 2016. Face à The Big Short, Brooklyn, Mad Max Fury Road.
Oui, et The Revenant. Voilà. Bon, on pense qu'on veut des autres
aussi,
films.
Soit sur Mars. Voilà, non mais.
Mais voilà, donc ils ont cette année-là, ils ont récompensé Spotlight, qui est littéralement un film horrible, horrible, qui se fait totalement écraser par son sujet, puisque ça traite de la pédophilie au sein de l'Église et d'une équipe de journalistes, du coup, du journal Spotlight, ou de la rubrique Spotlight, je sais plus, lâché, ça se passe à Boston, hein, il me semble. Bon, voilà, c'est un sujet beaucoup trop lourd pour ce pauvre réalisateur dont j'ai déjà oublié le nom, qui n'est pas capable de nous montrer autre chose que des gens qui discutent tranquillement dans un bureau, mais qui fait pas de cinéma, quoi. Il n'y a rien du tout dans Spotlight.
Non, c'est vraiment un film... Là, pour le coup, c'est le genre de film à acteur. C'est-à-dire que là, on fait des performances.
C'est vrai.
On essaye de vraiment performer en faisant des moments...
Ouais, mais c'est raté.
Ah, oui.
Et puis, après, mon autre, quand même, l'autre traquenard, pour moi, c'est Kramer contre Kramer qui gagne contre Apocalypse Now, je crois, en 80, il me semble. C'est Kramer contre Kramer, Kramer, c'est, contre le, Kramer c'est le film où Dustin Hoffman et Meryl Streep ils divorcent.
Meryl Streep.
Ouais, ça. Et bon, voilà, bon, Kramer contre Kramer.
Face à Apocalypse Now, Apocalypse Now qui était vraiment le film. Je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a autant en chié pour faire un film.
C'est possible. Mais bon, il y a ça. Il y a Coda, rappelez-vous de Coda, hein, c'était l'année dernière. Hein.
En 2020, ouais. Coda qui était le remake,
De la famille
Bélier. Américain.
Le remake de la famille Bélier. Ouais. Bon, après, le palmarès, c'était pas fou, hein, mais quand même. Tu vois.
J'avais Nomadland de Chloé Zhao.
Ah, je trouve pas ça mal, Nomadland, moi. J'ai pas de.
Ah, j'ai détesté. Enfin, j'aime bien la photographie.
Ça va.
Parce que pour moi, Chloé Zhao, c'est un peu celle qui a sauvé The Eternal, tu vois, pour la photographie. Mais. Je trouve, moi, le film, vraiment, c'est pareil, c'est très appuyé en disant « Putain, la société, vache, les gars, Amazon, vache, une traite de merde, voilà. »
Mais contre qui vraiment... gagne, le plus important, c'est ça. Tu vois, parce qu'à la rigueur, tu vas te dire « Le discours d'un roi, il bat, littéralement. » Ce qui bat pas, le discours d'un roi, Social Network, plein de trucs comme ça.
Si, il bat le Social Network. Ouais.
Après, ouais, Nomadland, tu vois, ça fait quand même quelques années que les palmarès sont pas dingues, donc il y a des trucs, des fois, bon, je me dis, ouais.
Alors, attends, Nomadland, attends, je vais regarder, parce que du coup, je me souviens plus, j'avais pas noté face à quoi il avait gagné, c'était en 2021. Il y avait The Father, il y avait Mank, Promising Young Woman. Non, c'était de la merde. Il y avait Sound of Metal.
Il y a Sound of Metal, éventuellement The Father, tu vois, ça peut passer. Bon, c'est vrai que.
Ouais.
C'est vrai que pour le coup.
Ouais, c'était pas fou, hein, parce qu'il y avait Minari aussi, il y avait. Ouais, c'était.
Ah, c'est ça, il y a Shakespeare in Love en 99 qui bat Saving Private Ryan et La Ligne Rouge.
Ah oui, de Terrence Malick, oui, effectivement, oui. Oui,
ah, mais à un moment, qu'est-ce que tu. Ah, moi, à la rigueur, tu vois, j'aurais pensé que ça aurait été Private Ryan qui l'aurait eu, tu vois, dans la logique du truc. Enfin, je sais pas.
Mais bah, bien sûr.
Shakespeare in Love, je sais pas si vous rappelez de Shakespeare in Love, quand même, c'est chaud.
C'est de la merde.
C'est chaud.
Et c'est là où ça prouve que Weinstein était un putain de commercial. Il était terrible là-dessus. Mais c'est vrai que Shakespeare in Love, ça a été vraiment. C'est celui qu'on sort le plus de traquenard. Mais alors, tu parlais de Tom Hooper, effectivement, avec le discours d'un roi.
Juste tant que je l'ai, je tiens quand même à rappeler un truc qui est terrifiant. C'est Alizé qui vient de retrouver ça, donc je vous le dis. C'est qu'on parlait tout à l'heure de Black Landsman et tout ça. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui est sorti la même année, qui n'a pas eu l'Oscar, que Miss Daisy et son chauffeur, quand même?
Bah, c'était Mississippi Burning.
Non, c'est 12 The Right Thing de Spike Lee aussi. Qui est sorti
oh
la même
putain
année. Non mais déjà
ah ouais donc lui il a
oh,
pas de vol en fait il s'est fait baiser deux fois
en plus à mon sens top 3 des meilleurs films de l'histoire de l'humanité quoi. Je veux dire, c'est incroyable
The Right Thing ouais, ah, oui, et puis, ouais. Putain, c'est un film incroyable
et bon, il sort la même année que Miss Daisy son chauffeur c'est drôle
qui a lancé la carrière de Morgan Freeman. D'ailleurs, c'est le film qui a lancé la carrière de Morgan.
J'avais pas spoté cette connerie encore, mais le pauvre vraiment quoi.
Et tu m'étonnes qu'il soit vénère lui parce que je crois que attends The Right Thing il avait pas je crois qu'il a eu un prix à Cannes du coup. Avant, en fait.
Oui, il avait mais c'est pareil, tu vois. Il peut s'énerver finalement quand Bigelow gagne un truc avec Détroit, quoi. Tu vois, parce que vraiment, pour
oui,
le
sûr.
Coup, lui, c'est chaud, quoi.
Mais pour le coup, Spike Lee a quand même un truc où, quelque part, où il est rattrapé, c'est le public européen, quoi. Parce que le public européen reconnaît son talent et reconnaît que.
Ouais.
Bah, il a sa place, clairement.
Ouais,
pour
finalement, quoi, il a cette chance d'être adoubé parce qu'il est très influencé par la nouvelle vague et par le cinéma européen. Ce qui fait qu'en Europe, on se dit génial, un Américain qui pense comme nous, c'est fabuleux.
Regardez, il a pris Truffaut. Il a fait avec Truffaut. Incroyable.
C'est compliqué à domicile, par contre.
Ouais. Bah, ça a toujours été. Enfin, oui, de toute façon, il y a beaucoup de réalisateurs aussi, toujours. Tu sais, où nous, on se dit, putain, c'est incroyable. T'as James Gray avant qu'il fasse Touche pas mon pote Armageddon Time. Pour nous, c'est un réalisateur incroyable, mais aux États-Unis, c'est. Voilà.
James Gray, seul, tu vois, le mec, il a fait un run Lost City of Z, Ad Astra.
Ouais. Qui n'ont pas fonctionné. Hein.
La nuit nous appartient.
C'est incroyable.
Ça va,
tu vois. Ouais. Mais alors, moi, tu vois, moi, c'était. Alors, c'est un film que je déteste. Moi, c'est La vie est belle, le Roberto Benigni.
Ah, de Roberto Benigni. Ouais.
Ah, ouais. Alors, lui qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle, c'est un film que je ne peux pas supporter parce qu'en fait, Roberto Benigni, je ne supporte pas ce personnage.
Alors c'est normal.
C'est
hein.
un quelqu'un de talentueux. Non, mais c'est quelqu'un de talentueux. Tout ça.
T'as une preuve de ce que t'avances ou.
Alors, c'est quelqu'un qui est très doué aux lettres, tu vois, déjà. Moi, je respecte, tu vois, ce genre de mec. Mais. Théâtre et tout, poésie. Mais c'est vrai qu'en fait, en tant qu'acteur et en tant que personnage.
La vie est belle, c'est pas un an après
public.
Astérix et Obélix contre César, où il jouait le méchant.
Si, ouais, mais je crois qu'il joue dedans, ouais, d'ailleurs.
Il joue le méchant.
Mais il est, tu sais, c'est la bonhomie Benigni, c'est vraiment blablabla, je sais plus, tu vois, il en parler. Son discours de quand il reçoit son Oscar aussi, c'est insupportable. Il est en train de dire la bella cima, tu vois, vraiment le cliché de l'italien, quoi, c'est terrible. Ouais. C'est vraiment, tu sais, faire le clown sur des cercueils, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est au bout d'un moment.
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Non, c'était chaud. Roberto Benigni, voilà. Moi, c'est un truc que pour moi, ça a été un traquenard. C'est pareil que The Artist, tu vois. The Artist, d'avoir filé The Artist un Oscar, c'est pareil, tu vois, c'est du genre. Un petit peu le truc du l'Européen qui veut aller draguer directement le public américain en disant « Vous avez vu quand même ? Voilà, on vous aime aussi. »
On est en 2024, j'ai toujours pas vu The Artist.
Mec, n'en dis pas plus. De toute façon, il est dans les trucs à faire. Donc j'ai envie de te dire, un de ces quatre, il va sortir celui-là. Mais The Artist, pareil, c'est vraiment... Là, c'est un traquenard. Enfin, j'aime bien le travail d'Azanissus une fois sur deux.
Non, mais il y a des trucs. Hein.
Mais son dernier film, c'est coupé, là, le remake du film américain, du film japonais.
Oui.
Qui est vraiment sympa. J'ai adoré moi son film. C'est vraiment trop bien. Un des meilleurs rôles de Romain Duris d'ailleurs, qui joue son rôle naturel, c'est-à-dire un gros connard.
Et avant t'as pas le truc avec Omar Sy, le prince, je sais pas quoi là.
Ah non, ouais, ça par contre je l'ai vu. Non.
J'ai pas vu.
Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est une fois sur deux. Tu vois, c'est une fois sur deux, ça va.
D'accord.
Il s'en sort.
Ok.
Mais oui, The Artist, c'est vraiment un vol pour le coup. Ça a été vraiment un traquenard ça aussi. Et ça lui a rien rapporté à Azanissus parce qu'il a pas travaillé à l'international après, malheureusement pour lui. Jean Dujardin, ça c'était la plateforme pour lancer Jean Dujardin et il n'a pas eu trop d'open à part faire une pub d'espresso avec Georges Clooney et son pote.
Non, mais après il y a sa maîtrise de l'anglais qui l'a emmerdé, enfin beaucoup de choses. Mais...
Ah, Golgo 16 dit d'ailleurs,
devant Tree of Life, The Artist. Enfin bon, bref, si vous fallait une preuve que c'était vraiment une cérémonie de merde. Ah, vous l'avez.
Après, il faut expliquer comment ça fonctionne. En vrai, c'est des gens,
c'est souvent des
gens d'industrie, des producteurs, des scénaristes.
Après, The Artist, de toute façon, c'est pas Lobbying Weinstein qui l'amène là, si c'est ça. Il me semble.
Si, c'est ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Weinstein avait tenté d'ailleurs.
Soyez fiers d'avoir été backup par Weinstein, et puis voilà. Non, mais c'est pas grave. Et c'est le karma.
Ah,
non,
mais c'est... Tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a quelque part, il y a un peu de ça. Ouais. Donc voilà pour les pires traquenards aux Oscars. En tout cas, je vais te dire cette année, moi, en tout cas, meilleur film Oppenheimer.
Oh, c'est pas déconnant.
C'est pas déconnant.
Non, moi, j'ai passé un très bon moment, vu le palmarès, c'est pas déconnant. C'est pas. Voilà, mais c'est pas. C'est pas un scandale, quoi, tu vois. Voilà. Non, mais c'est pour ça aussi que, pour revenir une dernière fois, même Emma Stone, pauvre créature, j'ai pas vu le film, hein, mais...
Il est pas mal.
Le fait que Lily Gladstone l'ait pas, c'est pas déconnant non plus. Je veux dire, finalement, elle fait pas non plus une performance renversante dans Killers of the Flower Moon, au point où tu te dis, elle doit absolument gagner. Voilà. Le problème, c'est aussi le fait qu'il fallait qu'elle gagne, parce que certaines personnes avaient décidé que ce serait un symbole et qu'ils avaient complètement enlevé artistiquement le truc. C'est pas déconnant, tu vois, on lui a pas volé. Quoi. On lui a pas volé. J'ai pas vu la créature, je peux pas savoir, mais je pense pas qu'on lui ait volé non plus. Donc, après, Oppenheimer, le meilleur film, ça me fait pas hurler. Enfin,
non.
Ça va, quoi.
Non, et puis comme on l'a vu au cinéma ensemble, d'ailleurs, Oppenheimer. Mais j'avais vraiment passé un excellent moment, pour le coup. Enfin, vraiment, je m'étais emporté par la musique.
C'était pas mal.
Je trouvais ça vraiment incroyable.
Pas mal, on s'était même pas endormi en plus, je me souviens. Donc.
Non.
On avait pas dormi, on avait pas dormi.
Trois fois devant... comment c'était le film ?
On s'est endormi trois fois devant Mister à Venise, mais figurez-vous qu'on peut mutuellement témoigner qu'on n'a pas dormi devant Oppenheimer.
C'est ça, effectivement. En tout cas, voilà pour cette question-là. On va passer aux recommandations, Marvin. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ?
Vas-y, passe en premier, parce que j'ai pas pensé à ça, moi.
Ah !
Ah si, j'ai un truc.
Ouais, attends, mais je prends la main. Oh là 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 là. Non, vite fait, j'ai vu Rattrapage de 2023, parce que des films aussi qui ont été au César, je l'avais pas vu. Et j'ai vu Le Ravissement de Iris Kaltenbach.
Ah, je l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu.
Qui est un film donc avec Afzia Herzi et Alexis Manetti. Alors, Afzia Herzi, elle était habituée des films de Abdelatif Kechiche. Notamment Grain d'Elmulette ou Bordel et Alexis Mananti, c'est ça, Mananti.
Ouais, Mananti, ouais.
C'est il était dans Les Misérables, il jouait le flic en fait, lui, dans Les Misérables. Concrètement, vite fait, le plot du film, c'est en gros, c'est une histoire de mensonge qui va partir en couille. En fait, c'est ça, c'est une chute d'1h30 où t'es là, où c'est vraiment raide. C'est très très bien filmé, très bien joué. Et moi j'ai vraiment apprécié ce film, Le Ravissement, et je pense qu'il aurait mérité, tu vois, si on faisait un petit peu le jeu des Césars, il aurait mérité le César du meilleur premier film face à Chien de la Casse, qui était très bien hein, d'ailleurs. Mais vraiment, Le Ravissement, c'est un très très bon film. Il est en DVD et en VOD, il me semble. Donc si vous pouvez le choper, vraiment un très très bon moment. Enfin, très très bon moment. Très bon film. moment.
Très très bon moment.
Si vous avez passé un bon moment.
Super.
Voilà, oui, non, c'est pas la joie, c'est pas le fun, mais en tout cas, c'était un excellent film, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, Final Fantasy VII Remake, je suis toujours dessus, mec. Je suis à 90 heures, j'ai pas fini. Okay. Rebirth. Ouais, je suis toujours dessus et c'est terrible, je ne finis pas. Alors, tu vois, on avait parlé des Yakuza Like a Dragon, qui sont un peu des jeux, enfin, deux RPG, hein, finalement. Tu vois, je préfère Final Fantasy VII Rebirth, parce qu'il fait pareil que Yakuza, c'est un jeu où il va t'ajouter des couches au fur et à mesure. Rebirth rythme mieux ce truc-là. Et du coup, jusqu'à la fin, t'as pas envie de rusher le film.
J'ai pas joué parce que j'ai actuellement pas de PS5, mais bon, vu que mes sources dans l'industrie...
C'est peut-être sur la PS7.
Vu que mes sources dans l'industrie m'ont quand même prévenu que...
Rebirth...
Tu m'as compris.
Rebirth, mais... intelligence aussi, pour finir vite fait dessus, vraiment... tu vois Twin Peaks et Returns?
Ouais.
Bah c'est pareil.
Bah remake c'est déjà plus ou moins ça, hein. Enfin, d'une certaine manière.
Ouais. Et c'est ça je trouve l'intelligence de revenir sur une espèce de, tu sais, de légende qu'on s'est fait dans la tête parce qu'on a tous joué, ça a été le jeu culte. Mmh. Et voilà, de retravailler dessus, de réinterpréter les choses. Je trouvais ça assez intelligent comme move, en tout cas en tant que scénariste de jeux vidéo là-dessus, tout ce que se passe aussi sur le gameplay. Je trouvais ça vraiment vraiment très cool. Voilà, donc je te laisse la main pour la recommandation.
Du coup moi c'est la mini-série Mike. Sur Disney Plus en France, donc qui doit être un truc Hulu, j'imagine, à la base, oui. qui est sorti dans l'indifférence totale en 2022, je crois, ici. Donc, qui est en fait une mini-série qui reprend une bonne partie de la vie de Mike Tyson et qui se base sur plus ou moins l'adaptation de son spectacle de stand-up, où il racontait sa vie devant des photos qui défilaient, machin... Et donc la série avec Trevante Rhodes, donc c'était un des acteurs principaux de Moonlight, hein, qui n'a absolument pas eu la validation de Mike Tyson, hein, qui dit que D'accord. c'est n'importe quoi. Mais pour le coup, ce qui est plutôt bon
donc,
signe...
Donc, pour le coup, ça peut être vrai.
Pour le coup, voilà. Pour le coup, c'est plutôt bon signe, puisque... alors, c'est réalisé, en tout cas, je crois qu'il y a 4 épisodes sur 10, ou 6 épisodes sur 10, okay. Je sais plus, qui sont réalisés par Craig Gillespie, donc qui était le réalisateur de Aitonia. Et en fait,
oui,
bon,
c'est très,
littéralement
très bien,
le même procédé narratif que dans Aitonia, c'est-à-dire que t'as ce truc un peu formaliste qui s'éloigne le plus possible de la structure du biopic classique avec des regards caméra, avec Tyson qui parle à l'écran, avec les images de stand-up qui sont mêlées à ses vrais souvenirs, à des espèces de reconstitutions télé. Enfin, il y a plein de trucs qui se mêlent comme ça. Et en fait, ça retombe miraculeusement sur ses pattes parce que c'est quand même très, très casse-gueule de s'exprimer sur... autour de Mike Tyson, il y a quand même une personnalité compliquée, quoi, à minima.
Forte,
et de réussir à rendre ça plutôt ambigu, c'était difficile, et je trouve que c'est ce que la série réussit à faire. Donc on va pas lui en demander trop, tu vois. Je veux dire, vraiment, c'est pas un truc totalement à charge, et c'est pas du tout une iconisation bête de Tyson, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses à se reprocher dans sa vie, faut pas déconner, quoi. Donc non, c'est assez bien foutu, c'est toujours sur Disney+, il doit y avoir 10 épisodes de... à peu près une demi-heure max chacun, donc ça se regarde plutôt bien, et puis c'est vachement dynamique, voilà, Trevante Rhodes est plutôt pas mal dans le rôle, donc ça marche bien.
Tu vois, ça change
des documentaires, assez bien foutus, notamment celui de James Toback qui a été fait sur Tyson, mais qui était quand même assez backup
par
lui, parce qu'il était complètement dedans, tu vois, donc t'avais toujours plus ou moins son point de vue. Pour le coup, la série, elle a l'avantage de pas être soutenue par l'intéressé et donc d'avoir une certaine neutralité, ce qui est plutôt pas mal. Voilà.
Non, vraiment. Puis tu me rassures sur le côté réalisation, parce que c'est vrai que le biopic, généralement, c'est un exercice, franchement, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est chiant à regarder.
Après, si vous avez aimé Aitonia, qui pour le coup s'intéressait déjà à une personnalité un peu trouble, bah, c'est plus ou moins le même procédé dans Mike, quoi. Donc ça marche pas mal. Après voilà, donc le film est pas en train de la série est pas non plus en train de réinventer la roue et de prendre des points de vue, tu vois, voilà, il se mouille pas tant que ça, mais en tout cas on n'est pas en train de le porter au nu, c'est le plus important là.
C'est pas un Bohemian Rhapsody, tu vois, dans le genre où on se lave le cul, tu vois, genre vraiment on se dit ah ouais, on a fait des conneries, mais non t'inquiète, vous êtes au courant de la production de Bohemian Rhapsody, c'est produit par des gens qui sont vivants. Face en charge, ils mettent à charge quelqu'un qui est mort.
Oui, voilà. De toute façon, c'est produit par les deux membres du groupe.
Brian May, oui, tout ce bordel. Voilà. Ouais. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, ok. Ouais, bah, Mike sur Disney+.
Donc c'est sur Disney+, en France, ouais.
Ouais. Après, moi, j'ai pas de série ou de film en ce moment. À part le ravissement, quoi, j'ai pas.
Pour l'instant, Shogun se déroule pas mal, hein, ça va.
Ah oui, tiens, oui, je voulais dire le point. La mise à jour.
Pour l'instant, le point Shogun, j'ai l'impression de ne pas m'être cassé la gueule. On a vu 4 épisodes sur 10. Il en reste 6, donc tout peut changer. Mais à l'heure actuelle, ça va.
On aura bien sûr l'update, encore une fois.
Bien sûr, vous aurez l'update la prochaine fois, mais pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Ok. Tout va bien dans le meilleur des mondes côté
j'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui, okay. Hein, donc je peux pas vous dire.
Ah, bah, si ça se trouve, c'est l'épisode de la du clash, tu vois.
J'y crois pour l'instant.
Tu veux y croire? Bah écoute, on va continuer à y croire. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 On n'a pas de blé. Tu peux m'en donner, tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.